Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui dans un poste avancé de Tsahal, situé à proximité de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a déclaré que Tsahal était prêt à riposter avec une grande force en cas d'attaque de l'Iran. Le Pakistan a affirmé aujourd'hui qu'il poursuit son engagement auprès des États-Unis et de l'Iran avec le soutien des pays de la région afin de ramener Washington et Téhéran à la table des négociations. Et puis enfin, un vol de Brussels Airlines à destination d'Israël a décollé ce matin malgré une protestation syndicale. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui dans un poste avancé de Tsahal situé à proximité de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Il était accompagné du chef d'état-major, le général Eyal Zamir, du commandant de la région sud, le général Yaniv Assor, et du commandant de la 99e division Bazak, le général de brigade Elad Zouri. Les commandants lui ont présenté les opérations menées dans le secteur, les missions confiées aux troupes ainsi que les efforts déployés pour neutraliser les menaces pesant sur les soldats et les localités israéliennes voisines. Nous contrôlons le territoire, nous ne nous retirons pas et nous restons sur cette ligne, a déclaré le premier ministre israélien depuis l'enclave palestinienne. Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël contrôlait désormais 60% de la bande de Gaza et poursuivait ses opérations contre les membres du Hamas représentant une menace. Il a également évoqué l'arrestation hier du chef de la sécurité intérieure du Hamas dans l'enclave, selon les autorités israéliennes. Ce dernier avait notamment participé à la dissimulation et au transfert d'otages protégés de hauts responsables du mouvement et œuvré à restaurer ses capacités. Benjamin Netanyahou a réaffirmé que le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza demeuraient les principaux objectifs d'Israël. Et puis toujours à propos de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz a lui déclaré aujourd'hui que les projets visant à faciliter l'émigration massive des Palestiniens de Gaza restaient à l'étude et avaient simplement été gelés par le président américain Donald Trump. C'était lors d'une intervention à une conférence organisée par le site d'information israélien Ynet et le journal Yediot Aharonot. En fin de compte, il n'y a pas de véritable solution pour Gaza sans cette migration, a-t-il déclaré lors de cet événement, ajoutant que 80% d'entre eux souhaitent émigrer. Nous le constatons dans toutes sortes de sondages, le Hamas ne les laisse pas partir et aucun pays au monde ne les accueille, a déclaré Israël Katz. En février 2025, quelques semaines après son entrée en fonction, Donald Trump avait préconisé la relocalisation de la population de Gaza, ce qui avait incité Israël à créer au sein du ministère de la Défense une direction chargée de faciliter ce que les responsables avaient qualifié d'émigration volontaire. Mais Donald Trump a par la suite abandonné cette proposition face à une opposition internationale écrasante et à l'absence de pays disposés à accueillir des Gazaouis. Le plan de paix pour Gaza mis en place dans le cadre du cessez-le-feu actuel s'engage plutôt à encourager les gens à rester et à leur offrir la possibilité de construire une meilleure Gaza, je cite, mais Israël Katz a affirmé que le plan était toujours d'actualité. Sur le terrain, les forces israéliennes ont neutralisé plus de 26 km de tunnels depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les opérations sont menées par les soldats de la brigade Nord sous le commandement de la 99e division. Avec l'appui de l'unité d'élite du génie Yahalom, elle vise à repérer et à démanteler les infrastructures souterraines situées à l'est de la ligne jaune. Au cours des dernières semaines, les soldats ont découvert puis détruit un nouveau tunnel d'environ 1 km dans le nord de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne. Tsahal a diffusé des images de sa destruction ainsi que des opérations menées dans le secteur. L'armée n'a pas précisé à quel groupe appartenait cette infrastructure ni communiqué davantage d'informations sur son utilisation. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu aujourd'hui une évaluation de la situation sécuritaire au quartier général de la division de Gaza. À cette occasion, il a rencontré les agents du Shin Bet ayant dirigé aux côtés du commandant sud de Tsahal l'opération qui a permis l'arrestation du chef de la sécurité intérieure du Hamas dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a félicité les agents pour cette intervention qu'il a qualifiée d'audacieuse et réussie. Les forces spéciales du Shin Bet avaient investi un bâtiment de la ville de Gaza avant d'y capturer le responsable du Hamas. L'armée de l'air israélienne avait simultanément frappé plusieurs cibles afin d'écarter les menaces pesant sur les forces engagées. Aucun soldat n'a été blessé. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée était prête à riposter avec une grande force en cas d'attaque de l'Iran après que les forces iraniennes ont pris pour cible des positions militaires américaines dans toute la région. Israël Katz a indiqué que les forces israéliennes étaient prêtes à faire face à une éventuelle attaque de l'Iran pendant la période des grandes fêtes juives qui débutent le soir du 11 septembre avec Rosh Hashanah. Pour l'instant, ils frappent partout dans la région, sauf chez nous, a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par le site d'information israélien Ynet et le journal Yediot Aharonot. Mais il est possible qu'ils nous attaquent, nous y sommes préparés sur le plan défensif, a-t-il ajouté. Si l'Iran attaque à Israël, riposterait avec une grande force indépendamment de quiconque, c'est ce qu'a déclaré Israël Katz, ajoutant « Nos avions sont prêts à décoller ». Fin de citation. Le Pakistan affirme qu'il poursuit son engagement auprès des États-Unis et de l'Iran avec le soutien des pays de la région afin de ramener Washington et Téhéran à la table des négociations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, a déclaré lors d'un point presse hebdomadaire à Islamabad que le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait rencontré le président iranien Massoud Pezeshkian en marge du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai à Bishkek au Kyrgyzstan cette semaine dans le cadre de ses efforts. Il a également précisé que le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, avait également rencontré son homologue iranien Abbas Araghchi en marge du sommet. Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Syed Asim Munir, s'est rendu en Iran la semaine dernière dans le cadre des efforts diplomatiques d'Islamabad visant à contribuer à mettre fin au conflit et à relancer les efforts pour rouvrir le détroit stratégique d'Ormuz, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tahir Andrabi. Et puis les Américains ont également réagi. Hein. Le commandement central américain nie avoir pris pour cible des civils, alors que les médias iraniens ont rapporté qu'au moins 4 personnes avaient été tuées lors d'une frappe américaine contre un mariage à Sirik, dans le sud de l'Iran. L'armée américaine ne prend jamais pour cible des civils, contrairement aux gardiens de la révolution iranien, a déclaré le CENTCOM à Reuters. Les Iraniens ont également réagi. Le chef de la sécurité iranienne a prévenu que les États-Unis devront faire face à une nouvelle stratégie de Téhéran dans la guerre au Moyen-Orient après la plus violente série d'attaques entre les deux adversaires depuis ces deux semaines. Depuis des semaines, vous verrez bientôt que la nouvelle stratégie de l'Iran sur le champ de bataille, sur le plan diplomatique et face au blocus économique ébranlera vos fondements, c'est ce qu'a déclaré Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Le refus persistant de l'Iran d'autoriser les inspecteurs internationaux à accéder à ces sites nucléaires constitue un sujet de préoccupation en matière de prolifération. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Agence de surveillance nucléaire de l'ONU, l'AIEA, dans un rapport selon le New York Times. Un rapport daté d'hier et consulté par le journal qui aurait été transmis aux membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique en amont d'une réunion prévue la semaine prochaine et consacrée à la question iranienne. Le manque d'informations dont dispose l'agence concernant ces matières et l'impossibilité d'accéder aux installations pour les vérifier constitue un sujet de préoccupation en matière de prolifération, c'est ce qu'indique le rapport de l'agence qui aurait été rédigé par son directeur général Raphaël Grossi. Raphaël Grossi qui appelle Téhéran à autoriser les inspecteurs à entrer en Iran de toute urgence, l'agence n'est en mesure de fournir aucune information sur la taille actuelle, la composition ou la localisation des stocks d'uranium enrichi en Iran, ni sur la question de savoir si l'Iran a suspendu toutes ces activités d'enrichissement, indique le document du Times. La marine allemande a annoncé avoir testé avec succès hier soir un système de missiles balistiques israélien et s'apprêtait à faire avancer les démarches en vue de l'acquisition de ces projectiles. Le système d'artillerie à longue portée, connu sous l'acronyme LORA, a une portée de 400 km et une précision de 10 mètres selon son fabricant Israel Aerospace Industries. Il est classé comme un missile balistique à courte portée. L'agence de presse allemande DPA rapporte que 2 frégates allemandes ont été déployées hier soir dans les eaux situées entre l'Irlande et l'Islande pour le test secret du LORA de fabrication israélienne. Avant le lancement réussi d'un missile balistique hier soir dans l'Atlantique Nord, nous sommes entrés dans l'histoire de la marine. Je suis extrêmement satisfait de cette réussite, a déclaré le vice-amiral Jan Christian Kaak, chef de la marine allemande. Dans un message publié sur Instagram, il a également précisé que le LORA peut être déployé avec succès à partir de nos unités et que sa portée potentielle dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Fin de citation. Les inondations dévastatrices à la frontière entre la Chine et le Népal ont fait au moins 1204 morts au Népal et 4216 personnes sont toujours portées disparues selon les autorités chargées de la gestion des catastrophes une semaine après cette catastrophe survenue mercredi dernier. Les médias d'État chinois de leur côté font état de 21 morts au Tibet et de 541 personnes portées disparues, ce qui porte au total le bilan de la catastrophe du 26 août à 1225 morts et 4757 disparus. En Belgique maintenant, un vol de Brussels Airlines à destination de Tel Aviv a décollé ce matin malgré une protestation syndicale. Une partie du personnel de cabine qui ne souhaitait pas effectuer le vol aurait subi des pressions de la direction selon le syndicat chrétien ACV Pulse. Brussels Airlines assure à nouveau depuis plusieurs semaines des vols entre Bruxelles et Tel Aviv. Jusqu'ici, ceci était opéré avec des volontaires et des membres du management qui combinent un emploi de bureau avec des missions en vol. Depuis ce mois-ci, les vols vers Tel Aviv figure désormais dans les horaires de travail ordinaires comme les autres liaisons. Le syndicat conteste cette décision et estime que la direction ne respecte pas les accords conclus précédemment avec les représentants du personnel concernant les vols vers Israël. La CV Pulse a déposé un préavis de grève afin de permettre aux membres du personnel de refuser ces vols. Selon le syndicat, les inquiétudes portent principalement sur la sécurité. Le vol d'aujourd'hui a néanmoins pu décoller. Nous avons des informations selon lesquelles certaines personnes effectuent ce vol contre leur gré, mais elles n'ont pas osé refuser parce qu'elles craignent des sanctions de la direction. C'est ce qu'a affirmé le syndicat. Et on termine ce journal avec l'entretien du 18h et on parle toujours de Belgique. Pendant 4 mois, le compte Facebook de l'échevin Georges d'Allemagne a été bloqué alors qu'il avait dénoncé la projection d'un film de propagande russe. Il soupçonne la Russie d'être derrière tout cela. Cet Georges d'Allemagne, échevin de Woluwe-Saint-Pierre, nous explique. Georges d'Allemagne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, Georges d'Allemagne, vous avez l'habitude d'être actif sur les réseaux sociaux, notamment sur votre page Facebook, pour dénoncer les actions russes en Ukraine. Cet été, on n'a pas vu de publication de vous et vous soupçonnez certains agents russes, ou la Russie en tout cas, d'être derrière cela.
Oui, absolument. J'avais fait interdire en mars dernier la projection d'un film de propagande russe qui avait été fait par un média complotiste belge et qui reprenait complètement le narratif russe. Les Ukrainiens sont des nazis, les Russes viennent les délivrer, les Européens sont des fascistes. Et donc j'avais fait interdire et ça avait créé une énorme colère de la part de ce média complotiste qui m'a d'ailleurs fait un procès, qu'ils ont perdu évidemment. Au même moment, en réalité, j'avais donc fait une publication Facebook pour dire que j'avais été soulagé que cette projection n'ait pas lieu. Et donc, et quelques jours après, paf, mon compte Facebook était bloqué. Soi-disant, j'avais pas respecté la réglementation de la communauté Facebook. Et il était bloqué, soi-disant, aussi pour 72 heures. Je me suis dit, pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, pendant des semaines et puis des mois, je n'ai plus jamais réussi à rétablir mon compte Facebook. J'ai entamé toutes sortes de démarches, j'ai essayé de contacter Meta, donc la maison mère de Facebook, par toutes sortes de moyens. Et chaque fois, j'avais une intelligence artificielle qui me répondait, qui classait le dossier, qui me disait qu'ils allaient suivre, mais sans suivi, etc. Je me suis même présenté devant le bâtiment qui était renseigné sur Google, donc la maison de mère de Meta ici en Belgique. Pas d'affiche, pas de sonnette, rien. Je suis rentré, j'ai eu du mal à me faire confirmer que c'était bien le siège de Facebook et de Meta. Et puis, moi, gentiment mis à la porte, enfin gentiment, fermement mis à la porte, avec un code QR en me disant que c'était comme ça et pas autrement que je pouvais récupérer mon compte. Et donc, j'ai dû finalement faire appel à un avocat qui a dû lui-même essayer de trouver quelle était la voie à travers laquelle on pouvait enfin essayer de contacter Facebook. Ça n'a pas été simple. Des lettres de mise en demeure qui nous revenaient. Et finalement, en Irlande, tout à coup, à partir de l'Irlande et un avocat qui était basé ici à Bruxelles, on a tout à coup eu un être humain. Et donc, le seul être humain que j'ai eu de la part de Meta, c'était un avocat qui a prétendu aussi pendant des semaines qu'ils avaient fait le nécessaire pour établir mon compte et qui donc, effectivement, ce représentant de Meta d'une certaine manière, avouaient qu'ils avaient eux-mêmes perdu le contrôle sur mon compte, quoi. Ils ne parvenaient pas à le réouvrir. Chaque fois qu'ils le réouvraient, ils se bloquaient immédiatement. Et donc, c'est aussi pour cette raison, à la fois par la violence que j'avais subie au moment où j'avais fait interdire la projection d'un film pro-russe, et à la fois par le fait que Meta avait perdu tout contrôle sur mon compte, que j'ai aussi fait le lien entre cet épisode et le blocage de mon compte. Donc voilà, c'est vrai que c'était ce que j'appelle moi une dystopie complète, quoi.
N'est-ce pas inquiétant, Georges d'Allemagne, que alors 4 ans et demi depuis le début de cette invasion russe en Ukraine, qu'un échevin belge se fasse viser par un raid numérique pour se faire interdire son compte Facebook parce qu'il s'est opposé à un film de propagande, comme vous l'appelez?
Oui, tout à fait, c'est très inquiétant. Je rajouterais d'ailleurs que ce film que nous avions interdit ici à Woulé-Saint-Pierre a finalement été projeté dans l'ambassade de Russie, élément supplémentaire qui me fait dire qu'effectivement c'est une attaque russe. Donc, et l'ambassade de Russie s'est fendue d'un grand communiqué pour évidemment m'attaquer et se plaindre du fait que ce film n'avait pas pu être projeté à Woulé-Saint-Pierre. Donc c'est très inquiétant de voir effectivement cette espèce d'attaque hybride. Et à quel point aussi, eh bien, elle est efficace d'une certaine manière. C'est-à-dire que, à plusieurs reprises, je me suis dit, je laisse tomber, c'est pas grave, tant pis. Bon, j'avais quand même beaucoup de documents à moi sur ce compte, de chroniques, de mes voyages, notamment en Ukraine, mais pas seulement. Et donc, oui, finalement, j'ai pas lâché l'affaire. Mais la plupart des gens auraient lâché l'affaire, et donc la plupart des gens auraient été effacés effectivement de Facebook.
On est la capitale de l'Europe ici en Belgique à Bruxelles. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est en s'en prenant aux gens qui habitent dans cette ville.
Oui, en tout cas, j'ai encore une fois une série d'éléments qui me font penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, je suis sur plusieurs fronts, hein. Je suis sur le front de l'antisémitisme, je suis sur le front de l'islamisme, de l'Ukraine, de la Chine. Et j'ai l'impression que ceux qui sont les plus organisés, les plus violents, qui ont mis en place une véritable machine de guerre, c'est véritablement la Russie. Et clairement, et donc une série effectivement d'enquêtes et d'ouvrages vont dans ce sens-là et le démontrent. Il s'agit véritablement de nous affaiblir, de briser nos démocraties, de faire en sorte que seule la voix de leurs propres propagandistes porte. Bon, alors ça ne fonctionne pas vraiment, évidemment, mais ils y mettent le paquet. Ça, c'est clair, ils y mettent le paquet. Et je pense qu'on a intérêt à être alerte et à nous défendre, oui.
Justement, hein, vous avez évoqué ces démocraties. D'ici quelques mois maintenant, nos voisins français vont être appelés aux urnes, une élection majeure, hein, dans le paysage européen et même dans le paysage mondial. Est-ce qu'on peut craindre, selon vous, quelconque ingérence de la part de la Russie? On sait notamment qu'une candidate se montre plutôt dans une zone grise, vis-à-vis de ses rapports avec la Russie.
Oui, écoutez, très clairement, l'extrême droite européenne est soutenue par la Russie, on le sait depuis longtemps. La Russie s'en cache à peine, d'ailleurs, elle ne s'en cache pas dans une série de pays. C'est une ingérence majeure, massive, qui existe d'ailleurs aussi en partie du côté de l'extrême gauche. Et donc, oui, bien sûr, il faut s'en méfier, il faut le savoir, il faut le répéter, il faut préserver nos canaux d'information et il faut faire du fact-checking évidemment sur tout ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il faut faciliter la capacité des citoyens à pouvoir se défendre et c'est là effectivement que le bât blesse quand vous n'avez aucun être humain du côté de Facebook qui rend service finalement à sa clientèle puisqu'ils font de l'argent grâce aux algorithmes sur ses comptes Facebook, quand finalement le seul être humain c'est un avocat qui défend leurs intérêts, ça ne va pas. Il est important qu'effectivement il y ait un service à la clientèle à travers des gens qui sont des techniciens qui peuvent nous aider et qui peuvent effectivement réagir très très rapidement et éviter que la voix des gens qui ne plaisent pas à Moscou soit effacée tout simplement des réseaux sociaux. C'est, je crois qu'il faudra renforcer notre arsenal législatif dans ce sens-là. Je rencontrerai la ministre compétente du digital, Vanessa Mas, à cet égard, parce qu'il est important effectivement que il y ait une réaction rapide et qu'il y ait, le cas échéant, des dommages et intérêts, parce qu'on a, évidemment un dommage réputationnel, on a éventuellement d'autres types de dommages. Vous savez, il y a des associations, des commerçants, toutes sortes de gens qui dépendent finalement de l'écho qu'ils peuvent avoir sur Facebook, pour leurs activités, et donc il est vraiment important de pouvoir les préserver.
C'était justement l'objet de ma dernière question, Georges Dalmagne. Alors là, on parle de Facebook, mais c'est exactement le même fonctionnement, que ce soit sur X, que ce soit sur TikTok, et même à une moindre mesure sur Instagram. Est-ce qu'on a été dépassé par l'ogre réseaux sociaux aujourd'hui?
Oui, vraiment, une partie de nos activités se passe dans ce monde virtuel et nous sommes dépendants de réseaux dont nous n'avons pas la maîtrise, dont les quartiers généraux sont en dehors de l'Europe. Je pense qu'il y a une question aussi de souveraineté qui est évidemment indispensable à renforcer, à créer. Je suis échevin justement du digital à Oulé-Saint-Pierre. C'est un des sujets qui me sur cette question de souveraineté, il est très important que, à la fois au fédéral, dans la région bruxelloise et au niveau des communes, par exemple, pour ne parler que des institutions publiques, nous ayons un plan stratégique pour renforcer notre cybersouveraineté et pour dépendre moins, effectivement, de réseaux qui, visiblement, n'ont que faire de nos préoccupations. Qu'elle soit de démocratie, de liberté ou tout simplement d'association ou de commerce.
Georges Dalmagne, je rappelle que vous êtes donc échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïa.
Je vous en prie, merci, au revoir, bonne journée.